OK, écoutez, sur un sujet plus sérieux, l'UPAC a enquêté sur ce qui était décrit comme étant peut-être la plus importante fraude immobilière de l'histoire du Québec. Ça impliquait des irrégularités dans une société d'État du nom de Société immobilière du Québec qui gère le parc immobilier du gouvernement du Québec. Ça impliquait aussi 4 collecteurs de fonds du Parti libéral du Québec et des comptes de banque aussi dans des paradis fiscaux. Radio-Canada a sorti cette histoire, l'histoire de cette enquête en 2016. Et aujourd'hui, l'UPAC a annoncé qu'aucune accusation ne serait portée. On en parle avec l'animatrice de l'émission Enquête à Radio-Canada, Marie-Maude Denis. Marie-Maude, salut!
Bonjour Patrick.
D'abord, peut-être nous rappeler c'est quoi la SIC, la Société immobilière du Québec.
Oui, la SIC, c'est assez peu connu. Pourtant, c'est une grosse société d'État qui brasse des grosses affaires. En fait, ça s'appelle aujourd'hui la SQI, la Société québécoise des infrastructures. Et essentiellement, c'est une société qui gère tous les bureaux du gouvernement du Québec. Donc, quand vous voyez une petite pancarte bleue qui est du gouvernement du Québec, c'est généralement un immeuble géré par la SQI, qui s'appelait la Société immobilière du Québec ou la SIC à l'époque où on a fait notre enquête.
OK. Et qu'est-ce qui était le stratagème allégué là-dedans, stratagème qui a déclenché une enquête sur laquelle votre émission, Marie-Maude, a fait un reportage explosif en 2016?
Alors, il y a plusieurs événements, mais essentiellement, on parle de renouvellement de baux, baux comme un bail
au pluriel,
oui.
Bien sûr.
Et de la vente d'immeubles du gouvernement. Donc, ce qu'on a observé, ce qui a été documenté, c'est que la SIC a fait des choses très, très étranges par rapport à ses propres normes, c'est-à-dire a consenti à certains propriétaires d'immeubles dans la ville de Québec des baux beaucoup plus longs que ce qu'elle consent d'habitude.
Okay.
Et puis, pour un promoteur privé, un bail avec le gouvernement du Québec, là, c'est comme une obligation d'épargne du Canada.
Ah, ben oui.
C'est archi sécuritaire.
Parce qu'on sait que le locataire va payer. Ben oui, il n'y a pas de risque. OK, bien sûr.
Le gouvernement ne fera pas faillite. Donc, c'est extrêmement avantageux pour un promoteur privé d'avoir un bail le plus long possible avec le gouvernement. Ça aide à lever du financement, etc. Et donc, la Société immobilière du Québec a consenti des baux renouvelés très rapidement, des baux beaucoup plus longs que la normale. Et puis, on a vu dans les semaines qui ont suivi des mouvements d'argent. Donc, il y a un exemple parmi ceux qu'on a documentés où le promoteur immobilier privé va envoyer un montant de 2 millions de dollars à un consultant à Montréal qui, lui, ensuite, va faire transiter cet argent-là en Suisse, au Liechtenstein.
Dans des juridictions, Marie-Maude, qui sont reconnues comme étant fiscalement là, des paradis fiscaux, bien sûr.
Oui, des endroits opaques aussi, où c'est compliqué de remonter à la source de l'argent. Et ensuite, l'argent finit aux Bahamas, dans le compte de banque d'un certain William Bartlett, qui est un ancien vice-président de la Société immobilière du Québec et aussi collecteur de fonds du Parti libéral. Et lui fait 3 transferts donc à Marc-André Fortier, qui est le PDG de la Société immobilière du Québec, qui était en poste à l'époque, à Franco Fava et Charles Rondeau, 3 autres collecteurs de fonds du Parti libéral.
OK, je vous arrête juste une seconde. On a dans l'équation, là, ayant eu un lien avec cet argent-là, il y a 4 personnes qui sont liées au Parti libéral du Québec. William Bartlett, Charles Rondeau, Franco Fava et Marco Fortier, c'est ça? Marc-André Fortier, c'est bien ça?
Oui.
OK.
OK, donc on voit que c'est Bartlett qui reçoit le premier transfert qui est rendu à, autour de 900 000 $, si ma mémoire est bonne, et qui fait ensuite des transferts aux 3 autres, donc à Rondeau, Fava et Fortier. Et ça, on a vu les traites bancaires, on a vu des documents bancaires. Tout ça a commencé par une enquête des autorités suisses, Patrick, qui a signalé ces mouvements d'argent-là suspects à la Sûreté du Québec en 2009. Donc, on a relaté ça dans notre enquête en 2016. Et puis ça, c'est un exemple pour le renouvellement de certains baux du gouvernement. Mais on a vu aussi la société immobilière consentir des avantages considérables aux acheteurs d'immeubles gouvernementaux parce que le gouvernement a mis en vente plusieurs immeubles. Et il y avait, dans un rapport jury comptable, On dit qu'il a été fait, qu'il a été commandé lorsqu'on a commencé à découvrir le poteau rose, un rapport de la firme Accuracy, qui avait 47 millions de dollars d'avantages indus que le gouvernement avait donné aux acheteurs. Et la vérificatrice générale du Québec, à la suite de la diffusion de notre reportage, avait aussi fait enquête et constaté qu'il y avait des irrégularités importantes dans ces transactions-là. Par exemple, il y a certains travaux que le vendeur, donc le gouvernement, avait pris à sa charge alors qu'il vendait l'immeuble. Il y a aussi des baux du gouvernement qui ont été signés pour ces mêmes immeubles-là à des conditions assez avantageuses pour les acheteurs. Donc, bilan de cette affaire-là, il y a eu des transactions hors normes à la Société immobilière du Québec qui ont été au désavantage de l'État, donc de nous tous contribuables. Et parallèlement à ça, il y a des mouvements d'argent suspects qui ont abouti dans les comptes de banque de Bartlett, Rondeau, Fava et Fortier, qui sont jusqu'à ce jour inexpliqués. On a diffusé également des courriels où William Bartlett s'attendait à recevoir des sommes très importante d'un de ces promoteurs-là qui a acheté un immeuble du gouvernement. Il y a un aura de mystère incroyable autour de ce qui s'est passé.
Marie-Maude, dans les quatre personnages là, qui sont liés à cet argent-là, dont la provenance est inexpliquée, qui implique des comptes dans des paradis fiscaux, dans des banques européennes, donc William Bartlett, Charles Rondeau, Franco Fava, Marc-André Fortier, pourquoi les noms de Rondeau et Fava, ça me dit quelque chose?
Parce que vous avez entendu parler d'eux à la commission Bastarache. Vous vous souvenez sur les allégations de Marc Bellemare, là, l'effet qu'il y avait des nominations de juges qui étaient plus ou moins organisées avec des collecteurs de fonds du Parti libéral. Et c'est un peu tout le contexte, en fait. C'est que Marc-André Fortier, lui, il s'est fait montrer la porte de la société immobilière parce qu'il avait des comptes de dépenses absolument somptueux. Et il n'était pas d'accord avec son congédiement. Il a poursuivi le gouvernement. Et lors de son témoignage, il a avoué bien candidement qu'il a été nommé PDG à la société immobilière grâce à ses relations. Et on sait qu'il était très proche de Charles Rondeau et Franco Fava. Alors, si on fait 2+2, on se souvient aussi du témoignage de Chantal Landry à la commission Bastarache qui avait dit que M. Rondeau et Fava, des fois, bon, on se souvient des fameux post-it.
Oui, faisaient des recommandations pour qui nommer comme juge.
Exact. Alors, la trame de fond, c'est que Fortier, Rondeau et Fava se connaissaient très bien. Fortier a dit qu'il a été nommé grâce à ses relations politiques. Et on voit ces quatre hommes-là se partager des sommes d'argent. Et celui qui est en poste et qui a le pouvoir de faire des transactions qui sont hors normes, c'est Marc-André Fortier. Donc, c'était la trame de fond de l'enquête de l'UPAC. Au moment où on a diffusé le reportage en 2016, Patrick, les accusations étaient imminentes. On a fait une entrevue avec Christian Plourde, qui était à ce moment-là le lieutenant chargé de l'enquête, qui venait tout juste de prendre sa retraite et qui s'attendait au dépôt d'accusations de façon très imminente, justement, parce que pour lui, l'enquête était complétée. Il y avait eu quelques détails. Ça semblait être des détails, là, en fait, qui manquaient à cette époque-là.
Et trois ans plus tard, on décide de ne pas donner d'accusation. Ma question, Marie-Maude, là, c'est est-ce que vos sources dans ce dossier-là, confidentiel ou pas, est-ce que vos sources sont surprises de voir l'UPAC annoncer qu'il n'y aura pas d'accusation?
Bien, je pense que rendu le 8 novembre 2019, là, il y a plus personne qui est surpris à cause de l'écoulement du temps. Mais selon mes sources, c'est passé toutes sortes de choses qui ont fait traîner les choses en longueur dans ce dossier-là. Et c'est très difficile de mettre le doigt sur qui a fait quoi, là. Mais les sources à qui on parle ne croient pas que cette enquête-là, pour toutes sortes de raisons, là, puis je lis comme vous tous les messages sur Twitter, là, le grand complot visant à briller des collecteurs de fonds du Parti libéral. Moi, je suis pas prête à conclure ça, mais je pense qu'il y a eu une série de mauvaises décisions, de mauvaises priorités qui nous renvoient à cette conclusion-là où ça semble être très, très difficile de sévir en matière de crimes économiques au Québec, en matière de corruption. Qu'est-ce qui a fait défaut dans la preuve? Parce que visiblement, il y a quelque chose qui fait défaut. Mais en fait, la question qu'il faut poser aujourd'hui, c'est par quels moyens on va obtenir la vérité sur cette affaire-là, puisque personne ne va être tenu responsable criminellement. Mais par quels moyens on va obtenir la vérité, ou si on va juste passer à un autre appel et au reste de nos vies, c'est ça la question pour
moi. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Maude Denis.
Je vous en prie.
Toujours un plaisir. Merci. C'était Marie-Maude Denis de l'émission Enquête, vous l'avez entendu. Elle a fait ce reportage en novembre 2016 avec ses collègues Daniel Tremblay et Jacques Tachaud. Une autre enquête de l'UPAC qui fouille dans la mort politique provinciale du Parti libéral et qui n'aboutit pas. Il est 16h20.